One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 344 du podcast Jean Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast d'intersaison 2020 et on va rentrer dans les choses de la Free Agency aujourd'hui avec Raphaël Masmejean à mes côtés. Bonjour Raphaël.
Salut à tous.
On continue donc ces épisodes d'intersaison avec la Free Agency. On l'a dit, une intersaison qui s'annonce folle en NFL cette année. On va parler notamment des quarterbacks, rubrique dédiée pour les quarterbacks, puisque évidemment il y a des très très grands noms cette année qui sont disponibles. Ensuite, on vous dressera le top 10 des joueurs disponibles, donc des autres joueurs disponibles. On ne va pas répéter les quarterbacks une deuxième fois. On parlera ensuite de nos, on va dire, coup de cœur ou top flop signature, en tout cas les joueurs qu'on aimerait signer et les joueurs à éviter dans ceux qui vont rester. Raphaël, est-ce que cette free agency va être folle? C'est le premier pronostic de ce podcast.
Eh ben écoute, on espère. Allez, ouais, j'ai envie de dire oui.
En tout cas, en faisant le total, il y a quand même des très très beaux noms, que ce soit chez les quarterbacks ou les autres, il y a quand même des sacrés poissons. On va parler de ça tout de suite. Premier jingle et les quarterbacks.
Hey, this is David Carr, and you're listening to the Touchdown Podcast. Enjoy the show.
Il y a des vedettes cette année, Raphaël, parmi les quarterbacks de la Free Agency. Alors, mais vraiment des grosses vedettes, hein, parce que l'an dernier, le numéro 1, c'était Nick Foles et Josh McCown était dans le top 5. Je l'ai rappelé quand même dans le papier sur le site. Là, cette année, on a quand même du très très lourd. Et évidemment, on commence avec la star des stars, la vedette des vedettes, le demi-dieu de New England, Tom Brady, le numéro 12. Bougera pas.
Pour nous,
est-ce
pour
qu'on peut croire qu'il peut changer de maillot.
Moi, j'y crois pas. Sincèrement, depuis le début, de toute manière, je ne crois pas au fait qu'il puisse bouger. Je crois à la possibilité qu'il est peut-être pas très content de comment la dernière intersaison a été gérée du côté de New England. Je crois au fait qu'il veut que les Patriots fassent quelque chose pour mieux l'entourer cette saison. Ça, je crois qu'effectivement, il a des attentes vis-à-vis de la franchise assez importantes cette intersaison. Mais je le vois pas partir parce que à l'heure actuelle, je vois pas vraiment de franchise capable de lui proposer mieux, que ce soit en termes d'effectifs pour l'accompagner, notamment sur la partie défensive, mais aussi le staff. Et je pense que malgré tout, après 16 années, il y a une routine avec Bill Belichick et que je crois pas que 43 ans ce soit le moment pour tout changer. Et c'est pour ça que moi personnellement, je le vois pas partir.
Donc on est en mode coup de pression.
Ouais, moi je pense qu'on est clairement en mode coup de pression.
Alors, l'équipe idéale, si on devait brosser un portrait de la situation idéale, tu disais, alors déjà, il faudrait qu'il y ait le staff. En effet, il faudrait un staff très costaud. Tiens, allez, je vais la balancer tout de suite. Par exemple, est-ce que San Francisco, Kyle Shanahan et cette ambiance-là, ça pourrait faire partie éventuellement, s'il devait bouger, des situations où le staff serait potentiellement à même de l'accueillir correctement.
Oui, San Francisco, c'est intéressant parce qu'en plus, t'as un coach très offensif, donc Shanahan, qui a cette capacité à faire du jeu au sol l'atout principal. Et donc, du coup, ça pourrait permettre à Brady, à son âge, avec, dans une nouvelle équipe, un nouveau système, de ne pas forcément être la pièce centrale tout de suite de l'attaque. Et donc, lui laisser le temps, grâce au jeu au sol, de vraiment monter en puissance au fur et à mesure de la saison. On l'a vu, il y a une... au niveau du staff, ça pourrait être intéressant. Il y a une très grosse défense qui pourrait l'aider aussi. Par contre, je trouve qu'en termes... En dehors de George Kittle, je trouve qu'en termes de receveur, c'est pas beaucoup mieux que New England. Mmh. Ok, il y a Deebo Samuel, mais qui est un rookie qui doit confirmer. On sait que la deuxième année pour les receveurs, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je trouve qu'en dehors de George Kittle, c'est pas non plus incroyable du côté de San Francisco. Mais bon, il y a une très bonne défense. Il y a une équipe dans une très bonne dynamique. Après, aujourd'hui, si t'es le staff des 49ers, est-ce que tu bazardes Garoppolo pour Brady?
Et c'est ça, il y a quand même un écart d'âge de quasiment 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai un trou sur le. Bah, de plus de 10 ans, même, hein, Jimmy Garoppolo, il n'avait pas 30 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il a 28 ans, donc il y a un écart de 14 ans entre les deux.
C'est
donc,
pas évident.
C'est ça, est-ce que tu joues la continuité avec un quarterback qui a quand même atteint le Super Bowl, mine de rien, et qui n'a pas été déshonorant pendant la saison, il a fait quelques bons matchs, ça pourrait être mieux, évidemment, ça aurait pu être mieux au Super Bowl, évidemment, mais il a 28 ans. Brady en a 42. Moi, je te rejoins là-dessus, c'est que au final, mine de rien, ce qu'il faut à Brady quand on y pense, c'est quasiment une situation idéale, quoi. Il lui faut une équipe où ça joue bien au sol, il lui faut des cibles, il lui faut une bonne défense. C'est pas facile de trouver, et sans parler du pognon. Parce que, a priori, c'est aussi une question d'argent. Ces histoires-là, il a beaucoup, on en a beaucoup parlé ces dernières années, qu'il réduisait son salaire, etc. Moi, j'ai un papier d'ESPN, par exemple, sous les yeux, où ils ont simulé un peu les offres qu'il pourrait avoir, que ce soit à Los Angeles avec les Chargers, avec les Patriots, avec les Titans, etc. À chaque fois, on parle d'une trentaine de millions garantis par an.
Non, mais c'est effectivement.
Donc,
c'est
il faut les aligner aussi, hein.
Ah bah, faut les aligner. Non, mais c'est pour ça, la situation, finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça qui sont capables de lui proposer un meilleur cadre que Boston, que New England, pardon. Et c'est pour ça que moi, je reste persuadé qu'il va rester à New England et que tout ça, c'est vraiment un petit jeu de pression, de machin.
Alors, balayons un petit peu d'autres possibilités. J'ai mentionné les Chargers. Philip Rivers est parti, ils arrivent à Los Angeles. Ce serait glamour, etc. Cible, il y a du monde. Il y a Keenan Allen. Il y a éventuellement une Terry Henry s'il revient. Enfin, il y a une défense potentiellement avec Bosa, Ingram, etc. Il y a du matos. Mais ça sent craquenard au niveau du staff.
Il y a plus de doutes effectivement sur le staff et sur la ligne offensive quand même. La ligne offensive des Chargers est dans un moins bon état que celle des Patriots. Est-ce que c'est à ce moment-là de sa carrière il veut prendre ce risque-là? Moi, je trouve quand même que c'est un niveau en dessous Los Angeles pour le coup, quoi.
Les Colts, il y a une ligne offensive, il y a T.Y. Hilton, il y a une défense qui grandit.
Il y a une défense, c'est peut-être un poil trop juste, pareil, les Colts, je trouve, en termes de défense, c'est peut-être un poil trop juste pour proposer aussi bien que ce que la défense des Patriots a pu faire cette saison. Après, eux, ils ont beaucoup d'argent, alors un coup de folie en free agency.
Après, je ne sais pas s'ils réfléchissent vraiment à ça ou quoi. Je sais qu'ils se respectent beaucoup, qu'ils s'aiment beaucoup, mais j'ai vraiment du mal à le voir aller dans la franchise de Peyton Manning.
J'ai du mal aussi à le voir aller là-bas. Après, pourquoi pas, hein. Comme tu dis, il y a quand même une ligne, il y a quelques receveurs intéressants. Il jouerait en dôme pour une fois, au chaud, un peu.
C'est vrai. Les Colts, ce serait un vrai poignard pour les supporters de New England, parce que c'est quand même un rival, quasiment un rival historique et un ancien rival de division. Les Titans, il y a le lien avec Mike Vrabel, un ancien coéquipier, qui est désormais le coach de cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes receveurs de talent, peut-être pas de numéro 1 ultra confirmé, etc., mais beaucoup de receveurs de talent. Derrick Henry, Derrick Henry, c'est une variable parce qu'il est free agent aussi, donc on peut pas dire il y a Derrick Henry à côté pour le jeu au sol parce qu'on n'est pas sûr au moment où on se parle. Mais sur le papier, c'est pareil, il y a une défense solide. Est-ce que les Titans, moi j'ai du mal à y croire, hein, mais...
Oui, j'ai du mal aussi à y croire, hein, de toute façon, depuis le début, on le dit. Mais ouais, je trouve que c'est une destination intéressante, en tout cas plus que Los Angeles, je trouve. Pourquoi pas.
Alors,
je
t'en donne une dernière qui m'a étonné un petit peu quand je l'ai lue, mais en réfléchissant. Est-ce que ça lui dirait pas de lancer le ballon à Mike Evans? Il y a une belle armada de receveurs à Tampa, puisqu'ils ont terminé la saison numéro 1 dans les airs, hein, quand même, mine de rien, avec James Winston. Il y a Bruce Arians, qui est un coach qui aime bien les quarterbacks vétérans. Il y a des talents en défense comme Shaquille Barrett, qui est free agent, mais qui est potentiellement retenable, entre guillemets, avec le franchise tag. Est-ce que Tampa pourrait être l'outsider là-dedans?
Je suis pas certain, quand même. Effectivement, en dehors du plaisir d'aller lancer à Mike Evans et Chris Godwin en duo de receveurs, je trouve quand même, moi, la défense, les cornerbacks notamment, je trouve ça assez faible. La ligne offensive, je suis pas un grand fan. Et je trouve qu'il correspond, enfin, je trouve que Brady correspond pas tant que ça au, en tout cas, ce qu'il fait ces dernières saisons correspond pas tant que ça au schéma de Bruce Arians, quoi. Je suis un peu plus
là en termes. Là, en termes de défi, c'est haut, hein, parce que les Bucks n'ont pas vu les playoffs depuis 2007. Hein, donc,
oui.
On est quand même sur du très haut. On l'a dit, donc San Francisco, Titans, Colts, Buccaneers, Chargers, etc. On l'a déjà dit et répété, on a du mal tous les deux à croire qu'ils partent. Mmh. Si jamais ils venaient à partir, vers quelle destination, un, tu penses qu'il irait? Et deux, s'il venait à partir, parce que forcément, il y a quand même une part de rêve et de divertissement dans tout ça, vers quelle équipe tu voudrais qu'il aille?
Alors, je trouve que ça serait bien. La plus logique à l'heure actuelle, ça serait peut-être les Titans. Les Titans, ouais, ça me paraît vraiment être une destination crédible entre ce qu'ils ont à proposer. Et après, moi, je voudrais bien. Je trouverais ça fou qu'il aille chez les San Francisco 49ers. Je trouverais ça assez incroyable, quoi.
On est totalement d'accord. S'il part et qu'il va aux Niners, c'est une histoire incroyable, vu qu'il n'a pas arrêté de marteler que c'était quand même l'équipe de son enfance, qu'il était dans les tribunes pour The Catch de Joe Montana et Clark, etc. Ce serait une histoire folle. Alors après, on parlait de Domino, Garoppolo derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, ça devient ça lance des hostilités complètement folles s'il va aux 49ers. Mais je suis comme toi.
Tu vois, Garoppolo, qu'est-ce qu'on en fait? À mon avis, si c'était le cas, je pense que New England tenterait un petit coup pour le faire revenir. Enfin, il y avait eu des rumeurs déjà à l'époque que Belichick voulait pas spécialement l'échanger. Enfin, bon,
ce serait magique s'il y retournait. Mais du coup, moi, exactement comme toi, si moi bouger, je dirais Titans, et dans l'idéal, San Francisco pour l'histoire, ce serait quand même plutôt pas mal. Voilà pour le chapitre Brady. On va passer quand même à Drew Brees, parce qu'il y a un autre Hall of Famer qui est officiellement free agent, mais là on va peut-être aller vite. Il l'a annoncé, il sera de retour, il ne veut jouer qu'avec les Saints, il n'y a plus qu'à signer, sauf cataclysme, on n'a pas grand chose à dire.
Non, décision logique de sa part. À partir du moment où il continue, je vois pas très bien où il allait jouer d'autre que chez les Saints, donc logique.
On est d'accord. Numéro 3, Dak Prescott, 26 ans, et là on commence à être sur des dilemmes, parce que Dak Prescott, je l'ai dit, sort de sa quatrième saison en NFL, il est jeune, donc là on est vraiment dans des vrais dilemmes de free agency, avec un quarterback où il faut juger s'il a de l'avenir ou pas. Je pense que la question, elle est là quand même. Alors on peut aborder ça tout de suite. Alors on est tous les deux pas des grands fans des discussions d'argent sur ces trucs-là, mais... Dak Prescott pourrait décrocher le plus gros contrat de l'histoire. On parle de 33 millions par saison en moyenne. Moi, je vais faire le même rappel qu'on fait tous les ans, mais évidemment, ça a l'air d'être beaucoup. Évidemment, c'est trop par rapport aux anciens, etc. Mais n'oubliez pas de comparer. N'oubliez pas qu'on ne peut pas comparer aux précédents, parce que le salary cap ne fait qu'augmenter. Et il faut regarder plus leur part dans le salary cap que le chiffre de l'argent brut, parce que le salary cap, il explose au fur et à mesure des années. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure quand on fera le top 10, mais le salary cap, il a quadruplé en 25 ans. Donc évidemment, il va prendre beaucoup trop.
Oui.
Maintenant, moi j'ai l'impression que Dallas est dans la pire des situations pour une équipe. C'est il est moyen, moyen plus, et tu sais pas si tu dois te coincer avec lui ou pas sur le long terme.
Non, c'est sûr. Après, moi je pense que malgré tout, Dallas a tout intérêt à le re-signer. il a progressé l'an dernier avec son nouveau coordinateur offensif. Il y a Mike McCarthy, un coach expérimenté qui arrive, qui peut peut-être aussi l'aider à passer un palier. Il y a des armes en pour lui, il y a quand même des armes en attaque. Il a une bonne ligne offensive, il a un coureur numéro 1. Il va peut-être garder Amari Cooper ou pas, ça on verra, mais et Dallas à l'heure actuelle, oui, tu veux pas donner 30 millions à Prescott, je peux comprendre, mais le problème c'est Dallas qui est une équipe qui est quand même en lutte pour être en play-off l'an prochain, qui avec un peu plus de concentration devait aller en play-off. Demain, quelle est ta garantie d'avoir mieux que Dak Prescott, si ce n'est tenter un coup de poker sur un vieux Philip Rivers ou en se disant tout de suite, non mais tu vois, ou tenter coup de poker dingue, Jerry Jones prend un jet, va voir Tom Brady et lui file 50 millions l'an prochain. Enfin, tu vois, je trouve qu'ils n'ont pas tellement d'options et que de toute manière, la plus logique est de re-signer Dak Prescott avec peut-être te permettre une porte de sortie dans 2 ans, un contrat, comme on dit, front-loadé avec beaucoup d'argent très vite sur les 2 premières années et derrière, tu peux vite, pour pas être bloqué trop longtemps, quoi.
T'as bien fait de mentionner en fait Mike McCarthy parce que c'est vrai que ça m'était sorti de la tête. Je pense que la question principale est là, c'est que si t'es les dirigeants, tu vas voir Mike McCarthy, tu lui dis est-ce que vous pensez qu'on a la moindre, qui nous donne même une petite chance d'aller au bout avec ça, parce que de toute façon il n'y a pas des masses d'autres options. Si McCarthy te dit oui, je pense que moi avec la base qu'on a et si ça se goupille bien, il peut m'emmener au bout. Bon bah on y va et comme tu dis, l'argent, tu trouves un moyen de moduler et de faire en sorte que t'aies une porte de sortie à un moment.
Regarde.
Mais en effet, il n'y a pas beaucoup d'autres options.
Non, et puis l'argent, le plafond salarial, c'est aussi un truc faut toujours prendre avec des pincettes. Enfin, on voit tous les ans les Saints ou les Eagles qui, à chaque fois au début de l'intersaison, ont quelques centaines de milliers de dollars disponibles et arrivent toujours à signer des joueurs parce que t'as des signatures à la bonus, t'as toujours moyen d'un peu jouer avec ton salary cap. Donc voilà, je pense que si tu penses que c'est ton quarterback, t'y vas et puis tu le payes. Et des fois, tu vas perdre. Et puis, si tu t'en sors, de toute façon, faut mettre l'argent à un moment. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'équipe qui gagne en NFL en n'utilisant pas son salary cap. Donc, de toute manière.
C'est ça. Et on rappelle qu'il y a même un plancher salarial. Oui, de toute façon, les propriétaires doivent dépenser un minimum d'argent au niveau de la masse salariale. Je précise d'ailleurs, j'en profite, on l'a pas dit en début d'émission, évidemment, on enregistre avant la fin de la deadline pour les franchise tags. Donc peut-être que certains joueurs dont on parle auront été tagués au moment où vous nous écoutez. Mais évidemment, ils font partie de la free agency à la base, parce que bloquer son franchise tag, c'est aussi faire un choix. Ça veut dire que tu peux pas bloquer d'autres joueurs. Donc il faut aussi évoquer les joueurs tagués. Autre dilemme de free agency, Ryan Tannehill. Alors là, on est sur un vrai, même encore plus dilemme de free agency, j'ai envie de dire. Parce qu'il a 32 ans, il sort d'une superbe saison, il est revenu de nulle part. Mais du coup, est-ce que tu as assez d'éléments pour dire je fais le pari ou pas?
Ouais, c'est le dilemme pour les Titans. Moi, je suis d'avis quand même, surtout au poste de quarterback, de pas tenter de casser une dynamique. Il y a une dynamique qui s'est installée dans cette équipe avec Tannehill. Voilà un peu, moi j'ai le même avis que pour Prescott, contrat sur 2 ans, avec s'il faut 30 millions l'an prochain, de toute façon, voilà, mais tu mets un contrat court avec une porte de sortie et tu retentes le coup parce qu'ils auront l'air bien trop bêtes si Tannehill a enfin trouvé la clé et qu'il fait une autre belle saison ailleurs. Ils auront l'air bien trop bêtes parce que du côté de Tennessee, ils auront enfin eu le quarterback depuis tant d'années qu'ils cherchent, ils l'auraient eu, ils le laissent partir au bout d'une saison. Moi je pense qu'il faut, sauf s'ils sont sûrs de pouvoir attirer Tom Brady, parce que je comprends que tu veuilles tenter le upgrade avec Tom Brady, mais en dehors de la certitude de pouvoir signer Tom Brady, à mon sens tu re-signes Tannehill, quoi.
On rappelle qu'il termine la saison dernière avec 22 touchdowns et 6 interceptions en 12 matchs, avec une évaluation de 117.5, qui est la meilleure évaluation de toute la ligue. Donc là-dessus on est d'accord. Moi je suis vraiment comme toi, il a 31-32 ans.
Ce qui est loin d'être la fin de carrière à l'heure actuelle pour les quarterbacks, 31-32 ans.
C'est ça. Et justement, j'étais en train de me demander, est-ce qu'il vaut mieux signer Tom Brady que lui? Tu vois, je suis même pas sûr, quoi. Sur la dynamique avec l'équipe, la connaissance du système, sachant que Brady arrivera, qu'il faudra qu'il se mette en place quand même, tout meilleur joueur de tous les temps qu'il est, il faut quand même se mettre en place, s'habituer à une nouvelle équipe, à un nouvel environnement, à des nouveaux receveurs. Je sais même pas si tu fais mieux pas de garder Tannehill directement.
J'en suis pas sûr. Le seul truc qui, moi, pourrait me dire, peut faire pencher la balance, c'est ce fameux truc un peu intangible des grands joueurs, de ce que, sur le terrain, en termes de leadership, etc., ils pourraient potentiellement apporter en plus. Mais effectivement, c'est pas non plus une évidence de virer Tannehill pour prendre Brady. Hein. C'est quand même un truc qui se réfléchit bien quoi.
Est-ce que tu penses qu'en 2011, quand on a commencé ce podcast, on aurait prononcé un jour les mots « c'est pas évident de virer Tannehill pour prendre Tom Brady »
Non, en 2011, c'est sûr.
C'est probablement une des phrases les plus improbables qu'on ait jamais prononcées.
C'est sûr.
Bon, on rappelle, Tom Brady a quand même 11 ans de plus que Ryan Tannehill. C'est aussi ça qui motive le propos.
Oui.
Mais après, je suis d'accord avec toi. Dans les faits, je dis ça, mais ça me choquerait pas non plus. Enfin, je trouverais pas ça insensé non plus de t'en prendre Tom Brady à la place, parce qu'en effet, t'espéreras qu'il soit là, lui, en playoff, avec toute l'expérience qu'il a. Et on disait de Peyton Manning, avant qu'il arrive à Denver, il faut s'adapter, machin. Et puis, il avait tout déchiré dès le début. Donc, a priori, il peut très bien nous faire mentir aussi. Mais voilà, il y a quand même ce truc de, il faut espérer que Tannehill, c'était pas un feu de paille, il faut espérer que ça continuera l'année prochaine, une fois qu'il y aura plus de bandes, plus de d'observations sur lui, la dynamique un peu moins, qu'il aura eu 6 mois de repos, qu'il arrivera à repartir sur le même rythme, l'enthousiasme et le feu en moins d'avoir pris la place d'un autre et de vouloir garder sa place, c'est une des vraies intrigues. Mais je suis comme toi, la meilleure situation pour lui comme pour les Titans, c'est de le garder.
Oui, je pense.
Philip Rivers, 38 ans, mais alors, il semble plus entamé sur les performances que certains autres camarades plus âgés dont on a parlé, Breeze et Brady. Est-ce que c'est son niveau? Est-ce que c'est ce qui l'entourait? On a dit que la ligne, c'était un peu difficile du côté de Los Angeles. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, à mon avis, qu'il revient dans les rumeurs pour les Colts, pour une ligne beaucoup plus solide. Est-ce que si demain on le transplantait aux Colts, ce serait pas le même joueur que celui qui a fait une saison dernière où je me suis pas mis la stat, je vais te dire ça. Mais est-ce que ce serait le même joueur?
Oui, moi je pense que ça sera pas loin d'être le même joueur, parce qu'il avait quand même du matos dans les airs et au sol pour l'aider, mine de rien, l'an dernier. La ligne offensive était certes moins bonne, mais c'était pas le... il a eu des craquages dans le dernier quart-temps, tout ça, qui n'était pas que du fait de la ligne offensive. Après, ça reste un cas intéressant, parce que pour le coup, lui ne retournera pas chez les Chargers, donc il va forcément bouger. Et il y a forcément des équipes qui vont le tenter. Moi, je trouve, malgré ses défauts de l'an dernier, je trouve que, par exemple, pour les Colts, effectivement, ça reste probablement une meilleure solution à court terme que Jacoby Brissett. Je veux dire, tu prends Rivers cette année à la Free Agency et tu draftes un quarterback, tu laisses 1 ou 2 ans derrière Rivers, pourquoi pas. Les Buccaneers aussi, c'est une option intéressante s'ils décident de larguer Winston, si Bruce Arians s'en a marre.
Ouais, mais tu vois, je suis pas... Enfin, il a 23 touchdowns, 20 interceptions.
Ouais, je sais pas... Non, mais c'est
pas
la folie, hein.
Je suis
pas
sûr qu'il fasse beaucoup mieux que Winston, et ça me coûte de dire ça.
Non, mais je suis pas sûr qu'il fasse beaucoup mieux que Winston, effectivement, maintenant...
Parce que la ligne est pas folle, tu vois.
Non. Ou Chicago, peut-être. Chicago, pour mettre en challenge Trubisky, tu vois, je trouverais ça intéressant.
Ouais.
Pour le...
Mais dans le froid, à 38 piges, avec sa mécanique...
Ouais, je sais pas, je pense que lui, il est un peu barjo, je suis pas sûr que ça le...
Ouais. Après, il y a la question familiale et tout ça. Hein. Ils se sont rapprochés de la Floride.
Ouais, je pense malgré tout que Indianapolis serait pour lui la meilleure destination possible pour continuer encore un petit peu. Mais
bon. Bah, il y a l'effet dôme dont tu parlais aussi. Oui, ça me paraît être le plus logique aussi. Je trouve ça un peu dur pour Jacoby Brissett, qui avait réussi un bon début de saison, qui a été blessé derrière.
C'est bien,
ses receveurs étaient blessés derrière aussi. Je sais pas si l'upgrade serait si significatif que ça avec les non-matchs que peut parfois faire Rivers.
Mais je pense quand même qu'il y a une vraie hausse. Mais bon.
Ça, c'était donc pour les joueurs libres. Et on voulait quand même en parler, c'est pour ça qu'on voulait parler du carousel global des quarterbacks, pas seulement des free agents. C'est qu'il y a d'autres dominos, parce que c'est un peu l'incertitude partout. Si ça bouge, Tom Brady s'en va, ou si Ryan Tannehill s'en va, etc. On a un Andy Dalton, par exemple, qui est disponible. Dis-moi.
Il manque pas Jameis Winston dans ta liste? Il me semble qu'il est free agent.
Oui, mais je l'ai gardé pour plus tard.
Ah, tu l'as gardé pour la fin.
Ouais, je l'ai gardé pour plus tard. Mais parce que j'ai fait quoi? J'ai fait un top 5, si je dis pas de bêtises. J'ai repris le top 5 du site, en fait.
Ça marche.
Pour les quarterbacks. Donc oui, Andy Dalton est le plan B désigné, ou le plan concurrence. C'est-à-dire que ça pourrait être le plan concurrence pour Mitch Trubisky, ça pourrait être le plan concurrence pour d'autres jeunes.
Ouais.
Où est-ce que tu le verrais atterrir dans un cas où Brady ou Tannehill, ou on va dire les places sont ouvertes?
Bah, si les places sont ouvertes, quand même, attends.
Alors attends, je vais même t'en mettre un deuxième dans les pattes. Nick Foles aussi pourrait être disponible pour un échange.
Ouais, là je suis moins... Ouais, je sais pas, tu vois, quitte à prendre un quarterback numéro 2, j'irais peut-être plus vers Marcus Mariota, tu vois, qui au moins fera pas de vague en termes de caractère et qui peut challenger, pareil, un Trubisky, un... Ouais.
Ok. Et Dalton en plan B, par exemple, des Patriots, si Brady se barre, est-ce que tu y crois?
Ah, si Brady se barre, ouais, pourquoi pas. Oui, il pourrait être le plan B dans plein d'équipes qui décideraient de virer leur quarterback. Il pourrait être même le plan B des Buccaneers, il pourrait être le plan B... Ouais. Il y a des rumeurs autour de Derek Carr ou de Cam Newton, il pourrait bien être le plan B d'une de ces équipes si elle se décidait de...
J'allais les évoquer aussi, ouais. Cam Newton au cœur des rumeurs à Carolina, Derek Carr dans les rumeurs perpétuellement quasiment depuis que John Gruden est arrivé avec les Raiders. Mais là, il y a tous les scénarios qui sont possibles, quoi. Derek Carr part, j'ai vu du Cam Newton à Las Vegas par exemple dans une prédiction d'un journaliste US, ce serait incroyable.
Ah
ça,
oui, ça, alors là, c'est sexy au possible. Ça.
Là, il y a un compte Instagram qui va devenir immanquable. Hein, celui de Cam Newton, s'il est à Vegas, ça va être quelque chose. Et puis, donc, on le rappelle, donc Nick Foles aussi pourrait être disponible parce qu'il y a un doublon du côté de Jacksonville et qui coûte cher. Mm. Ça va vraiment, vraiment quand même être passionnant. Et puis, tu l'as dit, bon, Jameis Winston fait aussi partie des free agents. Il y a Teddy Bridgewater aussi parmi les free agents. Je ne les ai pas mis dans le top 5. On en reparlera un petit peu dans les autres joueurs en fin d'émission. Mais vous avez le panorama un petit peu global. Alors, on va juste résumer les pronostics. Donc Tom Brady, bouge pas.
Ouais.
Drew Brees, bon, ça reste chez les Saints. Dak Prescott,
Dallas.
Ça reste à Dallas. Ryan Tannehill,
Titans.
Titans aussi. Philippe Rivers,
moi je dirais Colts.
Moi je dirais Colts aussi. Ouais, ça a l'air de se dessiner comme ça. Vous voyez, finalement c'est une grosse free agency, mais peut-être pas de mouvement. Ou alors on a vraiment trop de mal à y croire et on est trop on est trop bloqué sur les maillots de certains joueurs. Voilà pour les quarterbacks. Petite pause et on fait le top 10 du reste.
Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Il n'y a pas que les quarterbacks dans la vie, il y a les autres joueurs aussi. On va parler de tous les autres meilleurs joueurs de la Free Agency. Avant ça, on va faire un petit point salary cap quand même, parce que c'est toujours bon de rappeler qui a de l'argent, qui n'en a pas quand on parle de ces joueurs disponibles. Alors évidemment, là dans le top 10, ils vont tous demander des gros contrats. Hein. On ne va pas donner le détail à chaque fois de toutes les rumeurs. Pour vous situer, les Miami Dolphins, au moment où on se parle, auraient environ 93 millions de disponibles. C'est l'équipe qui a le plus de salary cap. Derrière, je vais vous faire le top 10 grosso modo. Les Colts 86 millions, les Buccaneers 84, les Bills 83, les Giants 77, Cowboys 73, Houston Texans 62, Redskins 61, Cleveland Browns 58 et New York Jets 56 millions de dollars. Pour vous donner le bas du bas, les Steelers sont en négatif de 2 millions de dollars, donc là ça va pas envoyer du très gros pour l'instant, il va falloir réaménager. Les Vikings donc 746 000 dollars, les Falcons 4 millions, les Saints 12 millions, 49ers 17 millions, Packers 18 millions, Chiefs 19 millions, les Rams 23 millions. On a quand même pas mal d'équipes qui ont au moins une dizaine de millions de dollars, hein, donc c'est plutôt pas mal. Tout ça est calculé sur une base de 199 millions de dollars de salary cap. C'est projeté, il est annoncé définitivement évidemment qu'au tout début de la nouvelle année NFL, on rappelle, l'année NFL commencera officiellement le 16 mars, si je ne dis pas de bêtises, à la période de négociation des free agents. Oui, il faut rappeler ces dates-là aussi. À partir du 16 mars, on négocie, à partir du 18, on signe. Et le petit rappel sur le salary cap, Raphaël, sais-tu à combien s'élevait le salary cap en 1994 quand il a été créé?
1994, non, j'avoue que...
Il était à 34 millions de dollars.
Ah bah ouais.
Pour
ouais,
toute
bah...
l'équipe. Pour toute l'équipe, tu te rends compte que ça va être le salaire de Dak Prescott l'année prochaine. Et donc pour vous faire les petits échelons, 94, 34 millions, 2000, 62 millions, 2005, on était à 85, 2008, 116 millions, 2015, donc il y a encore 5 ans, on était à 143 millions, 188 millions l'an dernier et 200 millions quasiment cette année selon ce que va décider la NFL. Donc pour dire quand même, en 5 ans, on a pris quasiment 60 millions de salary cap.
C'est pour ça que...
Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas se focaliser sur le chiffre dans l'absolu des contrats, il faut prendre la part dans le salary cap plutôt, parce que ça monte à une vitesse quand même assez dingue. Le top 10 des free agents autres que quarterback, alors on va dire Raphaël qu'on ne les a pas mis dans un ordre précis, on a pris voilà, les 10 meilleurs, pas de polémique sur l'ordre dans lequel on le met, et on va commencer par Chris Jones, 25 ans, defensive tackle, 13 matchs l'an dernier, 9 sacks, 4 passes déviées, 1 fumble forcé, 36 plaquages, un des meilleurs linemen défensifs de toute la NFL. Une énorme différence quand il était là pour Kansas City sur le terrain, il y avait un avec et un sans. Rumeur de franchise tag, ça semble quand même logique et essentiel pour Kansas City.
Oui, oui, ça semble logique pour les Chiefs de se donner le temps de le signer, de lui proposer une option longue durée, on va dire. Parce que comme tu l'as dit, il a 26 ans, il a déjà un niveau assez incroyable, il n'a fait que progresser de saison en saison. Il sort d'une vraiment très très belle saison où son impact a été assez important dans le run final des Chiefs pour aller au bout. Il fait un Super Bowl où il fait peut-être pas de sac, mais on voit qu'il est tout le temps dans la disruption. Enfin, il met en déroute la ligne offensive adverse, il met de la pression. Moi, c'est clairement, ça fait partie de ces joueurs à qui je donne le contrat qu'il veut, sans trop réfléchir, parce que je pense qu'il est bien trop important dans cette équipe de Kansas City pour le laisser partir.
Bon, on va pas en débattre des heures, hein. Chris Jones, c'est un essentiel, je suis exactement du même avis. Il peut mettre la pression, il peut défendre contre la course, il peut tout faire, c'est un defensive tackle moderne, c'est une rareté, on trouve pas des spécimens comme ça à tous les coins de rue, donc il faut le garder, ils mettront le prix pour le garder. J'ai dit qu'ils avaient combien les Chiefs, ils ont 19 millions, bon, ils lui feront une place,
oui, ils vont trouver
un peu le reste, ils vont garder ça. Jadeveon Clowney, 27 ans, 13 matchs, 31 plaquages, 3 sacs, 3 passes déviées, une interception, 4 fumbles forcés l'an dernier. Est-ce que, alors là on rentre dans les vraies problématiques de free agency, parce qu'on vous dit top 10, ça veut pas dire que c'est les 10 joueurs que nous on voudrait absolument signer, c'est le top 10, c'est un mélange de star power, d'influence dans les matchs, de stats, de statut, de choses comme ça, donc c'est le top 10. Ça veut pas dire qu'on en veut forcément, Clowney il fait partie de ces joueurs problématiques là, ouais. Est-ce qu'il sous-performe ou est-ce qu'il a une influence qui dépasse la feuille de stats et qui mérite qu'on mette beaucoup d'argent sur lui?
Alors, écoute, moi, avant cette saison qu'il a fait là chez les Seahawks, je t'aurais dit qu'il sous-performait et qu'il avait tout, chez les Texans, il avait, à mon sens, jamais passé ce cap d'ancien choix numéro 1 de la draft, si je dis pas de bêtises en plus.
Ouais.
Maintenant, j'ai quand même trouvé que cette saison à Seattle, il s'était vraiment affirmé comme leader de la défense. J'ai en tête là ce match de division contre les 49ers où il fait un match monstrueux. Oui, noircit la feuille de match, sac, pression, enfin, il est aussi excellent contre la course. Ça sera jamais ton pass rusher numéro 1 à 20 secs par saison, enfin, capable d'aller jusqu'aux 20 secs par saison ou de 15. Donc, je peux comprendre que certains veuillent pas lui filer trop d'argent à cause de ça. Malgré tout, j'ai l'impression que son impact va quand même au-delà. Donc, moi, je comprends la franchise qui lui file de la thune. Après, la seule petite peur que j'ai, c'est qu'il a quelquefois des sauts d'irrégularité et que je serais pas serein s'il signait dans une franchise moyenne juste pour l'argent, en fait.
Moi, c'est ça. Le problème, c'est que je le trouve pas assez dominant sur de longues périodes et qu'il a en effet énormément de talent. Donc, tu as l'impression que quand il veut s'y mettre, il s'y met et il fait du costaud. Le truc, c'est qu'il s'y est mis l'année où il doit aller décrocher un contrat, quoi.
Ouais. Et moi, je rajouterais quand même, je pense qu'il s'y est mis aussi dans une équipe où il se sentait peut-être vraiment leader et qu'il n'était pas à se cacher derrière JJ Watt, tu vois. Et que, mais je trouve effectivement, par contre, que son irrégularité, c'est vraiment le piège pour une équipe. Il y a beaucoup de rumeurs, par exemple, chez les Giants, tu vois. Et chez les Giants, j'ai peur qu'il arrive dans un truc où ça ne se passe pas si bien que ça en attaque, en défense et qu'il soit un peu trop pépère, quoi.
Ouais. Non, mais oui, je lui donnerais pas un gros contrat personnellement si j'étais GM parce que mine de rien, comme tu disais, ils sont quand même payés pour mettre des sacs et il y a quand même c'est pas un pass rusher premium non plus. Il a pas cette régularité là, il est pas dominant comme ça. Donc il peut prendre des matchs en main, mais c'est trop sporadique pour moi pour lâcher un gros contrat et il va le demander ce gros contrat là. Donc j'ai du mal à croire. J'aurais du mal à croire qu'il ait le rendement qu'il faut. Et comme tu dis, en plus, il faut vraiment que la situation soit bonne. Je pense que Seattle a quand même une vraie bonne capacité à tenir et motiver les joueurs, notamment en défense. Donc il était dans un contexte idéal. Même dans ce contexte idéal, je l'ai pas trouvé totalement convaincant à la hauteur d'un pass rusher premium, donc j'irai pas là-dessus. Après, ce sera un bon joueur, mais pour moi ça reste un petit pari quand même. surtout qui, encore une fois, il a quand même eu des premières années où il n'était pas toujours à la hauteur de son statut.
Il a eu du mal au début.
Donc,
oui.
Donc voilà. Toi, c'est pareil. Donc tu le signerais quand même sur un gros contrat ou...
Ça dépend vraiment quoi, de ouais. quelle franchise je suis. Tu vois, je pense que j'irai quand même malgré tout.
D'accord, moi je sais pas pourquoi je me disais c'est le genre de folie qui serait prêt à faire les Rams, tu sais, genre à dire on le met à côté d'Aaron Donald ou un truc comme ça. Ils aiment bien les trucs flashy. Derrick Henry, 26 ans, 2019, il a joué 15 matchs, 1540 yards au sol, 5,1 yards par course, 16 touchdowns. Il a rajouté 18 réceptions, 206 yards et 2 touchdowns, 5 fumbles, dont 3 perdus. C'est un des dilemmes de la free agency d'année en année, surtout ces derniers temps. Est-ce qu'on donne de l'argent à un coureur, si talentueux soit-il ? C'est bien, on a tous les exemples dans cette free agency. Est-ce qu'on donne de l'argent à un coureur ? On rappelle que c'est quand même le meilleur coureur de la ligue, enfin sortant en termes de yards gagnés au sol, et qu'il a quand même sorti des très grosses prestations, notamment sur les deux premiers matchs de play-off de son équipe.
Ouais, c'est comme tu dis, c'est vraiment le dilemme un peu des temps modernes sur ce genre de coureur. Moi, ce qui m'embête un peu pour lui filer un gros contrat, c'est que il a quand même encore du mal à s'affirmer dans le jeu, d'être une solution dans le jeu aérien quand ça bloque. Et ça m'embête un poil par rapport à des coureurs un peu plus modernes, un peu plus intéressants là-dessus. C'est un peu ce qu'on appelle t'as l'impression qu'il ne va être actif que sur les deux premiers jeux de son équipe, et le troisième, s'il n'a pas gagné assez de distance, il va y avoir une passe et lui va un peu disparaître. Maintenant, c'est vrai qu'il a une capacité à casser les plaquages, à gagner du yard après contact, qui est quand même intéressante pour beaucoup d'équipes. Je pense sincèrement que faut qu'il re-signe à Tennessee. Il est dans le cadre parfait, la ligne parfaite qu'il le connaît, et je peux comprendre l'équipe qui va être tentée, mais attention quoi.
C'est un attention. Bon, en fait, moi, ça va dépendre de la gourmandise du monsieur. C'est-à-dire que, comme tu disais, un Ezekiel Elliott, par exemple, qui est beaucoup plus petit, mais qui a ce profil de coureur puissant qui use la défense, qui est hyper utile et hyper intéressant, il a quand même su ajouter cette dimension aérienne. Au final, Ezekiel Elliott, mine de rien, a beaucoup de réceptions sur la dernière saison. J'ai plus le chiffre en tête, mais il a vraiment ajouté ça au fur et à mesure. Pour Henry, ça reste anecdotique, quoi, les réceptions.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Donc, en effet, c'est pas très moderne. Après, s'il veut pas être au-dessus d'un Elliott, Gurley aussi, je crois, était dans ces eaux-là. Enfin voilà. S'il veut pas aller aussi haut que ça, je serais quand même prêt à lui donner un beau contrat, à condition d'avoir une ligne un minimum décente. Mais ça reste un phénomène incroyable, quoi, de fatiguer les défenses comme ça, de rentrer dans l'art des équipes comme il l'a montré en fin de saison dernière. Et tu disais les Titans, je suis d'accord avec toi, ils devraient le conserver. S'il doit partir, les Colts sont un peu de pognon. Si t'as envie de faire un combo de la mort, ligne offensive, coureur, tu mets Derrick Henry derrière la ligne offensive avec Quentin Nelson et tout ça. Je vais te dire.
Ça peut transpercer, ouais. Ça peut transpercer quelques. Ouais, non, c'est super. Ouais.
À mon avis, tu peux garder Jacoby Brissett parce que t'as pas besoin de lui mettre le ballon dans les mains souvent. Hein.
C'est sûr.
Et après, alors je me disais, une équipe qui forme bien, qui n'a pas toujours des linemen très glamour, mais qui forme bien ses linemen, et qui pourrait créer la surprise parce qu'on disait qu'il y avait un joueur qui lui avait mis la pression, bah, si les Patriots, s'ils veulent craquer leur slip pour aider leur quarterback légendaire,
ouais.
C'est oui. Récupérer le mec qui les a torturés en playoff, faire une petite crasse à Mike Vrabel, tu dis à Tom Brady, allez, reviens, on te prend Derrick Henry. Bah, je suis Tom Brady, je me dis ouais, pas mal,
Ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. Mais j'ai du mal à voir les Pats mettre un gros contrat sur un coureur là comme ça, mais
ça me paraît dur, d'autant qu'ils avaient drafté Sonny Mitchell il y a quand même seulement trois ans. Ouais, ils ont drafté beaucoup de coureurs, donc et puis ils jouent avec des comités, hein, donc ce serait vraiment un changement de philosophie, parce que pour le coup, en termes de d'épaisseur de comité de coureurs, les Patriots ils en utilisent beaucoup. Amari Cooper, 25 ans, un autre joueur de Dallas après Dak Prescott dont on a parlé tout à l'heure, 79 réceptions, 1189 yards et 8 touchdowns l'an dernier. C'est sa meilleure saison statistique en carrière. Mais est-ce que c'est un top receveur qui mérite un gros contrat, et ton pouffement me fait deviner que non.
Ouais, moi j'ai vraiment du mal avec Amari Cooper, parce que c'est sûr, depuis qu'il est arrivé à Dallas, il a amélioré cette attaque. Je veux dire, Dak Prescott, clairement aussi, son niveau de jeu est élevé grâce à Amari Cooper, et c'est indéniable, il a sorti des très très grosses prestations. Mais moi je trouve que c'est toujours un peu le même Amari Cooper que depuis le début de sa carrière dans la Ligue, et donc à Oakland avant, c'est... Il va avoir des périodes d'un ou deux matchs très très forts, et puis après il va disparaître un ou deux autres matchs. Et à mon sens, il disparaît trop pour un receveur numéro 1. C'est ça qui me gêne avec lui. C'est quand tu compares avec un Julio Jones, un Michael Thomas qui quasiment vont enchaîner 5-6 réceptions par match tous les ans. Lui, cette saison, j'ai regardé, il fait quasiment un match sur deux. Un match sur deux, a 3-4 réceptions, et après les autres, ça dégringole.
J'allais te dire presque pire. Alors oui, c'est un peu ça, c'est un peu ce que tu dis. Moi, j'avais noté depuis la semaine 11 de l'an dernier, parce que moi, j'avais du mal en préparant l'émission. Je me rappelais surtout de sa disparition en fin de saison.
Ouais.
Alors, il est un peu touché à un genou à partir de novembre, ça joue forcément, mais le fait est qu'il est sur le terrain, donc moi, je juge avec ce qu'il y a sur le terrain. Et sur le terrain, à partir de la semaine 11, il fait 38 yards, 0 yards, 85, 83, 19, 24, 92. Donc en effet, c'est irrégulier, et il n'a pas un match à plus de 92 yards à partir de la saison de la semaine 11 l'an dernier, et bah, Dallas disparaît avec lui, quoi. Donc c'est cette capacité à sortir dans les grands moments qui est censée quand même aussi différencier les grands joueurs. Et comme tu l'as dit, Cooper, à la fin, quand ça allait plus à Oakland, ça allait plus. Ouais. Il est revenu à Dallas, il revit, ça va bien, et puis ça redevient dur en fin de saison, il n'est plus là non plus, quoi. Donc j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal avec ça aussi, et j'irai pas sur un gros contrat non plus, d'autant qu'il y a eu le genou l'an dernier, alors c'était pas grave, mais j'ai aussi, je suis comme toi, j'ai du mal avec lui. C'est une menace en profondeur, hein, faut quand même lui donner ça. Il est sur les 1289 yards qu'il a, il y en a 503 sur des passes de plus de 20 yards l'année dernière, donc il peut être une vraie menace là-dessus, mais il va demander beaucoup a priori, et moi je serais pas prêt à lui donner non plus. On reste à Dallas, Byron Jones, 27 ans, 15 matchs, 46 plaquages, 6 passes déviées, un fumble forcé, là on est en défense évidemment, le meilleur cornerback de la Free Agency, les Jets et les Raiders seraient intéressés, je vous donne les rumeurs déjà, les Cowboys donc, ont beaucoup de choses à gérer avec Dak Prescott, avec Amari Cooper et donc Byron Jones, donc, qui peut aussi gérer un peu les tight ends de temps en temps, c'est un gros plus hein, dans la NFL actuelle pour un cornerback, est-ce que ça va réussir à rester à Dallas, est-ce qu'ils vont réussir à le conserver?
Il va falloir qu'il s'aligne hein, clairement en termes d'argent parce que comme tu l'as dit, 27 ans, il sort de deux belles saisons et notamment la dernière vraiment de très haut niveau. Tu l'as évoqué, cette capacité à défendre un peu sur plusieurs types de receveurs, tight end, c'est quand même hyper intéressant. Il défend aussi bien sur l'extérieur que dans le slot, donc il est quand même dans des défenses avec des backfields un peu polymorphes, il est capable d'être mis un peu partout. Donc Dallas va devoir s'aligner parce que je les vois mal poser le franchise tag sur lui, sachant que tu vas peut-être avoir besoin de temps avec Dak Prescott justement pour négocier. Donc ça risque d'être compliqué. Il risque de signer un beau chèque. Moi je serais Dallas, je le re-signerai parce qu'à mon sens t'as jamais assez de bons cornerbacks. Enfin voilà, je pense que.
Est-ce que, juste une petite question, est-ce que c'est inquiétant le fait qu'il n'ait pas intercepté une seule passe ces deux dernières saisons et qu'il ait seulement deux interceptions en cinq années ?
Alors, sur le bilan total de ces cinq années, je dirais que non, parce qu'il a eu un peu de blessures au début de carrière, machin, donc je serais moins... Après, sur les deux dernières saisons où il a vraiment été installé comme cornerback numéro 1, c'est un poil plus inquiétant, effectivement, cette incapacité, on va dire, à être un game changer, peut-être, ou un playmaker, en tout cas. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui est le plus valuable, on va dire, pour une équipe entre un cornerback qui éteint le receveur adverse numéro 1 et un autre qui fait des interceptions. Dans l'idéal,
Mais
j'ai envie de te dire,
de temps en temps,
il faudrait presque les deux. Il faudrait pouvoir associer les deux. Maintenant, moi, je trouve quand même qu'un cornerback capable d'annihiler son face-à-face, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Donc, bon.
En tout cas, il ne va pas manquer de prétendants. Byron Jones, ça va être un des grands acteurs de cette free agency. Et Yannick Ngakoue, 24 ans, là, c'est un cas assez particulier. 41 plaquages, 8 sacks, 6 passes déviées, 1 interception, 4 fumbles forcés l'an dernier. Donc, c'est un très bon joueur et en plus très jeune, 24 ans. Le divorce semble consommé avec les Jaguars. Il a annoncé son départ, mais ça n'exclut pas un franchise tag et éventuellement un échange. Alors, ce n'est pas une situation facile. Si c'est un échange, qu'est-ce que tu mets pour le récupérer? Un choix du premier tour? C'est un joueur qui a 37 sacs et demi sur 4 saisons, donc c'est quasiment
mais
10 sacs à la saison.
Depuis son entrée dans la ligue, de toute manière, il est top 5. Il est top 5 depuis son entrée dans la ligue en termes de sacs effectués. Moi, vraiment, j'adore ce joueur. Je le trouve d'une rapidité technique, tout ça. Enfin, c'est clairement un joueur. Je serais prêt à mettre l'argent pour le faire venir dans mon équipe. Maintenant, via un échange. Un premier tour, ouais, suivant la situation, quelle équipe je suis, pour un pass rusher numéro 1, moi je suis prêt à aller mettre un premier tour après.
En fait, moi je signe, tu vois, si j'ai le choix par exemple entre les deux, je signe plus lui que Clooney. Mais le problème, c'est la compensation, quoi. C'est une sorte de faux free agent. Parce que
la compensation est dure à juger. C'est suivant ce que les Jaguars en attendent, tu peux pousser, quoi. Parce que, par exemple, enfin. Je pense pas que les Jaguars en attendent autant, mais j'irai pas donner ce que les Bears ont donné pour Khalil Mack pour Ngakoue non plus.
Oui.
Tu vois,
oui,
j'irai pas jusque là. Mais
un seul choix du premier tour aux alentours de la vingtième, dans la vingtaine.
Ouais,
quoi.
Moi je serais prêt à aller jusque là. Maintenant, je peux comprendre si certains hésitent. Et c'est vrai que lui, sa situation est compliquée parce qu'en même temps, si c'est pour pas jouer de l'année sur le banc de Jacksonville.
Ouais, non, ça va être un des dossiers à suivre. Autre défenseur, Shaquille Barrett, 27 ans, 58 plaquages, 19 sacs et demi, 2 passes défendues, 1 interception et 6 fumbles forcés en 16 matchs. Alors lui, c'est un phénomène aussi particulier. 5 saisons plutôt discrètes à Denver, c'était pas un joueur majeur.
Non.
Et puis l'explosion l'an dernier, il était arrivé à Tampa sur un contrat d'un an et 4 millions de dollars.
Ah, ouais, voilà.
4 millions de dollars, les 19 sacs et demi, c'était plutôt pas mal. Est-ce que du coup, on lui donne le pactole sur cette année exceptionnelle?
Moi non, moi personnellement je lui donnerai pas parce que c'est une année vraiment un peu trop exceptionnelle et puis il était à 11 sacs après 5 ou 6 journées et derrière ça a quand même bien baissé son rythme de sacs. Donc bon, moi je serais un peu moins enclin à lui donner, surtout que je reste pas persuadé qu'il peut être sur le long cours, sur une longue période, 3-4 ans, ton pass rusher numéro 1 qui porte vraiment cette franchise Et d'ailleurs, malgré ses 19 sacs et demi, la défense des Buccaneers n'a pas été transfigurée. Alors, elle n'a pas été aidée par James Winston qui rendait tout le temps la balle à l'adversaire. Ça, c'est sûr que ça n'aidait pas.
C'est vrai.
Mais bof.
Ouais, il veut rester à Tampa, il l'a annoncé. De mémoire, je crois même qu'il a fait allusion à une petite remise. Il serait prêt à consentir une petite remise. Ça. Donc, au moins, il est conscient qu'il est performant là où il est. Ce qu'il faut lui reconnaître. Mais oui, c'est toujours épineux, hein, ce genre de joueur qui, après une début de carrière plutôt discret, explose d'un coup comme ça. 19,5, en effet, c'est une anomalie. C'est très dur à tenir, même des joueurs comme Von Miller ou JJ Watt qui ont atteint des sommets comme ça reviennent à un niveau déjà très bon, mais pas aussi exceptionnel.
Bien sûr, ouais.
Après, il va pas manquer de prétendants. Hein, c'est un edge rusher à 19 sacs. Bon, a priori, il pourra en avoir. Il pourrait être tagué aussi par Tampa Bay, ce qui serait pas une idée idiote de le remettre à l'épreuve en fait pendant un an.
Oui, non, ça se tente complètement.
On passe sur la ligne offensive, Joe Tunney. Alors, je sais pas comment on dit Tunney ou Tunney ou Tunney. T-H-U-N-E-Y, 27 ans, 64 matchs débutés ces 4 dernières saisons. C'est simple, il a débuté tous les matchs des Patriots ces 4 dernières années. Et donc, tous les matchs des Patriots depuis qu'il a été drafté au premier tour. Il a commencé son premier match rookie depuis, il n'est pas sorti du terrain devant Tom Brady. Donc, ça situe quand même déjà la qualité du bonhomme. C'est toujours plus dur pour les linemen de les situer aux gens qui ne les connaissent pas parce qu'il n'y a pas toutes les stats, etc. Mais c'est un garde polyvalent qui peut dépanner ailleurs et qui a protégé Tom Brady pendant 4 ans sans se faire sortir du terrain par Bill Belichick. Donc
Alors, moi, je vais vous spoiler un peu un papier qui arrive dans la semaine sur le top 5 des linemen offensifs pour la Free Agency. Moi, je l'ai classé numéro 1. Comme tu dis, pour moi, il n'a cessé de progresser au point d'être seconde All-Pro Team cette saison en tant que garde. J'ai noté ça dans le papier, vous irez relire dans la semaine, mais de mémoire, il n'a raté que 26 snaps en carrière, ce qui est quand même après 4 ans là, il mène d'une telle solidité. Et puis cette saison, moi je trouve qu'il a vraiment, ce qui m'a beaucoup plu cette saison chez lui, c'est que il a totalement élevé son niveau de jeu alors qu'autour de lui il y avait des blessés. Le centre Andrews n'était pas là, il y a eu des blessures avec Isaiah Wynn, il y a eu, et peu importe qui tu lui mettais autour, il a continué à élever son niveau de jeu. Il a été finalement le patron de cette ligne offensive. Sachant que les Patriots sont déjà mis, en plus ils risquent de bouger parce que les Patriots ont déjà mis beaucoup d'argent sur l'autre garde, Shaq Mason. Je les vois pas forcément mettre deux gros contrats à des gardes, c'est pas évident, surtout qu'ils sont capables de produire des linemen, donc voilà. En tout cas de bien les coacher.
Oui, c'est ça, ils se font confiance parce que l'année dernière ils avaient déjà laissé Trent Brown partir, qui était le left tackle quand même.
Exactement. Donc en tout cas, un joueur solide, All Pro, qui avait fait un super match, qui avait fait un super bowl face aux Rams. Voilà, moi je trouve qu'il a il coche toutes les cases pour aller chercher un beau contrat dans une équipe qui a besoin d'un garde. Et en tout cas, moi j'irais vraiment le signer sans aucun doute. Ouais.
Ça me rappelle d'ailleurs une idée que j'avais lue aussi, je crois que c'était sur ESPN, de signer Tenney aux Buccaneers. Il disait aux Buccaneers de signer Tenney pour faire venir Brady.
Ouais, si tu peux. Pourquoi pas.
Comme ça, tu lui mets un petit effet rassurant de lui garder un de ses linemen. Non, mais oui, joueur de très grande qualité en effet, et vu l'importance des lignes offensives ces dernières années, on a vu l'importance que ça a pris. Il va être très très demandé.
Il va prendre
je pense qu'il va commander
chèque,
un très gros contrat. Ouais. AJ Green, 31 ans, aucun match l'an dernier, 9 la saison d'avant. Je situe tout de suite certains des problèmes parce qu'on a hésité à le mettre dans le top 10. On en a discuté avant l'émission. On l'a mis parce qu'il s'appelle AJ Green, dans le top 10 notamment. Comment on aborde un joueur pareil pour la Free Agency ? C'est un joueur qui a une carrière formidable, qui est formidable quand il est sur le terrain, mais comment tu évalues ce que tu vas lui donner alors qu'il a joué 9 matchs en 2 ans ?
C'est ça, qui a une mentalité aussi visiblement formidable. Enfin, il n'a jamais eu de mots plus haut que l'autre avec AJ Green. Moi, c'est toute l'inquiétude. Hein. C'est pour ça qu'au début, je ne l'avais pas forcément dans ce top 10. Il a plus de 30 ans, 2 saisons compliquées. Après, je peux aussi peut-être entendre qu'il a peut-être moins tiré sur la corde physiquement parce que la situation à Cincinnati n'était pas très bonne ces dernières saisons. Peut-être que dans une autre franchise plus attrayante, en tout cas, où les résultats étaient meilleurs, peut-être qu'il l'aurait poussé un peu pour jouer un peu plus de matchs sur sa saison 9 matchs. On le sait, hein, y a des receveurs qui finissent la saison qu'on jouait tous les matchs alors que réellement, sans les antidouleurs, ils en auraient joué que la moitié. Ou voilà, ça arrive aussi. Bon, c'est ce genre de joueur un peu âgé, un peu blessé ces derniers temps, sur un contrat court, pourquoi pas, hein, sur un contrat court d'une équipe qui a besoin de...
Je pense que sa destination, ça va vraiment être une question d'évaluation des franchises, quoi, hein, ouais. Selon ce qui va lui être proposé, est-ce qu'il bougera, bougera pas. Il y a le tag qui était vaguement évoqué pour Cincinnati, mais même le tag, est-ce que c'est je crois que c'est autour de 18 millions pour un receveur.
C'est beaucoup. Pour AJ Green, à l'heure actuelle, c'est beaucoup.
Ouais, c'est très bien, quoi. Donc non, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une situation qui pourrait être fluide selon ce que lui proposera le marché, quoi.
L'idéal pour lui, moi, je trouve, et l'idéal pour un autre joueur dont on a mentionné, ça serait une petite arrivée du côté de New England.
Ah ouais, s'il est pas tagué, ouais. Ça, c'est bon plan. Tu signes un an ou deux pour te relancer au pire,
ouais,
tu vois.
C'est pas mal, hein.
Et puis tu fais de la stat, c'est pas mal. Le dernier de ce top 10, c'est Corey Littleton, 26 ans, 16 matchs l'an dernier, 134 plaquages, 3 sacs et demi, 9 passes déviées, 2 interceptions, 2 fumbles forcés. Tu as tenu à ce qu'il soit là quand on préparait l'émission. Je te laisse expliquer pourquoi.
Parce que l'ami Littleton, actuellement middle linebacker chez les Rams, c'est vraiment un joueur qui n'a eu cesse de progresser là, ces dernières saisons, au point l'an dernier de sortir une saison de très très haute volée. Il est sans conteste, à mon sens, l'an dernier dans le top 3 à son poste de la Ligue. Et moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant avec ce joueur, c'est sa capacité pour un inside linebacker à couvrir le jeu aérien. Il est très très bon dans la couverture aérienne. Il a une capacité à gérer les receveurs qui rentrent à l'intérieur, les tight ends. Et je pense que vraiment, en 2020, avoir un joueur, un linebacker mi-terrain capable de bloquer sa zone en couverture aérienne et de jouer, enfin, le nombre de passes déviées, ça se voit, 9 passes pour un linebacker, c'est vraiment un bon... Enfin, il sent le jeu aérien et je pense que c'est typiquement ce genre de joueur qui peut devenir pour beaucoup de franchises la pièce angulaire vraiment d'une défense, quoi. Le quarterback, comme on dit, un peu le quarterback de la défense. Je pense qu'il en a les épaules et qu'il ferait du bien à beaucoup, beaucoup de franchises. Il est jeune. Les Rams n'ont pas forcément plus beaucoup d'argent pour le re-signer. Ça va être compliqué de le re-signer. Donc, tu peux vraiment aller le chercher.
Donc, tu mentionnais les passes déviées. En fait, enfin, moi, j'allais donner une autre stat qui était 18 en 2 ans avec 6 interceptions. Est-ce que c'est suffisant quand même pour compenser ses lacunes au sol? Parce que c'est pas non plus le plus gros costaud, et la défense des Rams dans son ensemble a terriblement souffert au sol l'an dernier.
Est-ce que c'est suffisant? Moi, je trouve que oui, parce que même lui, à titre personnel, je trouve qu'il progresse quand même sur ce domaine-là. Qu'il est loin d'être le facteur numéro 1 de la mauvaise défense contre la course des Rams l'an dernier. Donc moi j'aurais pas de soucis là-dessus, hein, mais
mais c'est un joueur intéressant. C'est vrai qu'il est un peu dans l'ombre aussi de Aaron Donald et d'autres stars qui avaient signé en masse du côté de des Rams. Il y avait quand même du monde dans la défense, mais il est deuxième équipe All-Pro en 2018 aussi, hein. Littleton, donc c'est vrai que ça reste, il n'y a pas beaucoup de All-Pro sur le marché de la Free Agency, donc il méritait bien sa place dans le top 10. Petite pause et derrière on fait le je signe, je signe pas.
Hey, this is Johnny Hecker, punter from the LA Rams, and you are live in the Touchdown Podcast.
This is Josh Reynolds from the LA Rams, and you're on Touchdown Podcast.
Nous avons parlé des quarterbacks, nous avons parlé du top 10. Il reste évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres joueurs qui seront disponibles lors de la Free Agency. Nous allons en parler dans cette séquence. Raphaël, il est l'heure de signer, pas signer. On choisit donc parmi tous les joueurs qu'il reste. Et encore une fois, il y a beaucoup de qualités, hein, je tiens à le souligner. Raphaël, on va faire un chacun. On se fait une sorte de petit ping-pong des joueurs disponibles. Je te laisse commencer. Qui tu signes en premier dans ceux qui restent?
Bon, alors du coup, je vais aller très vite pour le premier parce qu'on en a déjà parlé, mais moi, vraiment le premier joueur que je signerai à tout prix dans cette QV, c'est Joe Thuney, le garde des Patriots. Voilà, donc pour insister sur sa place dans le top 10 à titre personnel.
Ça marche. Alors moi, j'ai pris des joueurs dont on n'a pas parlé. Du coup, je commence avec Robbie Anderson, qui n'est pas un receveur numéro 1, mais pour moi, c'est un top numéro 2 si t'as vraiment déjà un mec en place. Il est entre 40 et 60 réceptions tous les ans avec les Jets depuis 4 ans. Vu le défilé de quarterback, c'est l'équivalent de 120 réceptions ailleurs. Il a 26 ans. Si tu le mets en numéro 2, alors c'est vraiment des exemples, hein, je dis pas qu'ils auront de quoi les recruter ou quoi, mais typiquement en numéro 2 chez les Chiefs ou les Rams ou les Saints, il fait un carton. Tu vois, chez les Saints, qui n'avaient pas forcément compté Ted Ginn à côté de Michael Thomas, tu vois, si tu complètes avec un Robbie Anderson.
Ah oui, c'est sûr, ouais, ça devient.
Tu vois, c'est un petit investissement qui me plaît, moi, pour New Orleans. Numéro 2 pour toi.
Numéro 2, alors, honneur aux vétérans, moi, j'ai Devin McCourty, le safety des Patriots, qui, certes, a 33 ans, mais joue toujours un très, très haut niveau. C'est un vrai leader, c'est un joueur avec un QI football, comme on dit, à mon sens assez exceptionnel. Je pense qu'il va re-signer chez les Patriots pour un prix d'amis, hein, mais si jamais c'était pas le cas, il y a pas mal de franchises qui seraient bien, bien intelligentes d'aller chercher un safety comme ça, parce qu'il apportera, je suis persuadé qu'il apportera, quelle que soit l'équipe pour laquelle il jouera.
Ouais, c'est une sorte de Eric Weddle qui a fait plusieurs franchissements en fin de carrière en étant qui apporte de l'intelligence.
Ouais,
de la qualité,
ouais,
c'est une vraie bonne affaire. Si t'arrives à le piquer aux Patriots, c'est une super affaire. Brandon Scherf pour moi derrière, 28 ans. Les blessures m'embêtent un peu. 11 matchs l'an dernier, 8 en 2018, 14 en 2017. Donc ça fait 3 saisons de suite où il joue pas l'intégralité des matchs. Mais avec l'importance des lignes et des jeux au sol, encore une fois, un joueur comme Brandon Scherf, pour moi, ça vaut le coup de tenter le coup. Il y a un tag possible du côté de Washington, ce qui serait pas illogique de lui donner une année justement pour montrer qu'il est en bonne santé avant de lui donner un gros contrat. Mais s'il est disponible, encore une fois, un garde de cette qualité à 28 piges, je prends.
Je comprends, ouais.
Ton troisième.
Je reste dans les backfields défensifs un peu vétérans et j'irai vers Chris Harris Jr., le cornerback des Broncos, qui pareil, lui a passé la trentaine, a eu une saison un poil plus compliquée que celle de ses standards ces dernières années. Après, il a été beaucoup plus aligné sur l'extérieur, ce qui n'était pas forcément une grande idée vu son âge un peu plus avancé que ces dernières saisons. Mais je pense qu'une équipe qui le ferait venir vraiment pour se concentrer dans le slot ferait pareil une super affaire, parce que là encore, on a un vétéran avec de l'intelligence de jeu qui a eu un niveau, qui est à mon sens un des meilleurs quarterbacks de la décennie, avec un niveau bas, on va dire, tout le temps très bon. En fait, il a jamais été mauvais ni médiocre, il a toujours eu un bon niveau de jeu, et ça, je trouve ça hyper important. Et il y a pas mal de franchises, à mon sens, qui seraient inspirées d'aller le chercher pour le slot.
Moi, je vais rester sur la ligne offensive. Jack Conklin, 25 ans, 16 matchs l'an dernier, toujours jeune. Même chose que même raisonnement que pour Brandon Scherff. Importance de la ligne, il est jeune. Lui, en plus, a un tackle droit. Quitte à y mettre le prix, c'est typiquement le joueur de l'ombre dont on parlera pas beaucoup, mais qui fera du bien à ton jeu au sol, qui fait les minima à la passe. On l'a vu, la ligne de Tennessee était très bonne, il fait partie de cette ligne. Donc voilà, Conklin, pareil, s'il y a moyen, si jamais ils posent leur franchise tag sur un Tannehill ou sur un Derrick Henry, ça veut dire que tu vas pouvoir aller titiller de Jack Conklin. Donc bonne affaire à faire, et il y a tellement d'équipes qui ont des besoins sur les lignes qu'à mon avis, les linemen cette année, ils vont se gaver. Hein. Donc,
ouais, c'est possible.
Vu comment on en a parlé et vu les besoins, voilà. Le quatrième.
Alors en quatrième, j'ai le left tackle des Colts, Anthony Castonzo. Je pense pas qu'il va bouger, sincèrement. Je vois mal les Colts le laisser partir. Mais c'est voilà, si jamais c'est le cas, c'est quand même un tackle gauche vétéran, expérimenté, qui sort d'une très très bonne saison et qui est même très bon depuis 3-4 ans maintenant, qui a vraiment élevé son niveau de jeu par rapport à son début de carrière. Peu de matchs ratés, que des saisons quasiment complètes. Je pense que c'est pour protéger un jeune quarterback ou apporter vraiment de l'expérience sur la ligne, ça serait une bonne recrue. Après, je suis vraiment pas certain qu'il bouge d'Indianapolis, donc c'est plus un rêve.
Il n'a pas parlé de retraite un peu?
Ouais, il y a même eu aussi ça, qu'il y a des petites rumeurs de retraite un peu. Donc j'ai l'impression que lui, c'est clairement retraite ou les Colts. Je ne pense pas qu'il puisse bouger, mais bon, dans le doute.
Après, j'étais en train de me dire, avec tous les free agents qu'il y a sur la ligne, alors ils vont avoir des belles offres, mais tu peux te faire une belle ligne avec des free agents, parce que tu as Castonzo à gauche, Jack Conklin, Brandon Scherff et Joe Thuney à l'intérieur. Déjà, tu as une belle base. Et Brian Bulaga est libre aussi.
Oui.
Donc c'est quand même plutôt pas mal. Moi, je vais aller sur la ligne défensive. DJ Reader, 25 ans. Autre joueur de l'ombre, monstre au milieu de la ligne des Texans. Alors c'est pareil, il y a des stars autour de lui, donc on n'en parle pas forcément, mais il sort de sa meilleure saison. C'est un ton en dessous de Chris Jones dont on a parlé en début d'émission, mais on l'a dit, il n'y a pas des Chris Jones à tous les coins de rue. DJ Reader, c'est déjà quelque chose de très très bien. Contre le jeu au sol, il faut quand même avoir envie de passer à travers ou autour, ça fait du chemin. Donc pour moi, ce serait une bonne signature d'homme de l'ombre pour vraiment donner une base solide à une défense qui aurait des besoins au milieu de la ligne. Il va falloir voir combien il demande, mais au bon prix en tout cas. C'est un peu ce qu'on va pas le préciser pour tous les joueurs dont on parle là, oui, voilà. C'est au bon prix évidemment à chaque fois. Ça peut être un super joueur. Ton cinquième à signer.
Eh ben écoute, mon cinquième ressemble un peu à DJ Reader, c'est Javon Hargreaves, le nose tackle des Steelers. Pareil, c'est un peu le même moule, joueur de l'ombre, mais très efficace contre la course, qui est même capable un peu ces derniers temps d'apporter de la pression, solide, voilà, c'est une pièce. Et l'avantage, je pense qu'il va être même un peu moins cher que le joueur des Texans, donc une équipe qui se cherche quelqu'un en milieu de ligne pour combler un peu les trous. Ça me semble être un choix judicieux, et puis moi j'aime bien souvent les défenseurs de Pittsburgh, de Baltimore. T'es souvent à peu près sûr d'un certain niveau, surtout sur les lignes défensives, de joueurs de niveau très intéressants qui font pas de bruit, mais quand tu les fais venir, ils sont là, ils font le taf et voilà.
Clairement. Moi, je vais terminer avec un défenseur aussi, mais derrière, Justin Simmons, 26 ans, safety des Broncos, 15 passes déviées, 4 interceptions en 16 matchs l'an dernier. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il y a une progression constante au fil des années. Donc, il a 26 ans, mais il y a eu une progression constante. C'est pas une explosion l'an dernier ou quoi que ce soit. Donc, je pense que les Broncos seraient bien inspirés de le garder. Et je vais finir avec lui. Donc, mon top 5 des signatures. Qui on évite ? Ah, c'est le moment où on est un peu mauvais esprit. Qui tu vas éviter dans cette free agency en premier ?
Je sais pas si c'est vraiment le premier que j'éviterai, hein, mais j'ai des doutes moi sur Jimmy Collins, le linebacker des Patriots, qui a qui était bon chez les Patriots, qui est parti chez les Browns, qui a connu des difficultés, qui est revenu à un bon niveau chez les Patriots. Voilà, j'ai l'impression que c'est typiquement ce genre de joueur dans, parfaitement exploité par le système Bill Belichick, mais si tu le sors de là, j'ai peur qu'à nouveau ce soit un peu... je vais être vulgaire, mais j'en branle pas une. Donc voilà, moi j'éviterai l'étiquette défenseur Patriots, quoi.
Ouais, et puis les Browns l'avaient bien payé en plus, oui, de mémoire. Oui. Il s'était un peu endormi là-dessus. Ouais. Mm. Jameis Winston, pour moi, tu l'as évoqué en début d'émission, bon, 30 touchdowns, 30 interceptions. Mm. Je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer beaucoup plus que ça, mais il fallait le mentionner parce qu'il est free agent. Donc voilà. Mais je pense qu'on sait ce qu'on a avec lui. Je ne vois pas le besoin de s'imposer ça à partir du moment où on sait ce qu'on a avec lui. Voilà. Donc je vais pas faire du mauvais esprit plus longtemps sur lui. On a suffisamment parlé pendant la saison. Mais voilà, d'un point de vue free agency pur et dur, je vois pas en fait dans quel état d'esprit tu peux le signer. C'est-à-dire que c'est pas la pierre qui manque à ton équipe, c'est pas un game manager qui va prendre soin du ballon si t'as une bonne défense. Je vois pas trop en fait dans quel esprit il pourrait t'apporter, ou alors c'est vraiment si ta personne que tu veux tenter le tout pour le tout et que t'as envie de passer 450 yards par match avec tous les risques que ça comprend, quoi. Mais je vois pas trop dans quel état d'esprit en fait ce serait une bonne signature, quoi. Numéro 2 à éviter pour toi.
J'ai le coureur des Los Angeles Chargers, Melvin Gordon, qui fait une sorte de grève l'an dernier pour avoir un gros contrat. Il s'est fait manger par Austin Eckler, le numéro 2 des Chargers, qui a été bien plus performant et bien plus intéressant dans l'attaque de Los Angeles que lui. Donc je pense qu'il a revu ses prétentions salariales à la baisse pour cette saison. Il a vraiment bien géré, l'ami. Mais voilà, moi j'ai toujours eu un doute sur le fait que Melvin Gordon soit un coureur numéro 1. Je dis pas que dans un prix correct, dans un comité de coureurs, tout ça, avec un rôle de 1 bis, on va dire, je dis pas que ça serait forcément un meilleur joueur, mais en tout cas, c'est vraiment pas un coureur avec un statut de numéro 1 vers lequel j'irais, quoi.
Mais pour tout dire, je l'avais aussi dans ma liste des 5 à éviter, donc oui, pour tous les mêmes arguments. Mais en 2, sinon j'avais Teddy Bridgewater, pour revenir au quarterback, 27 ans. Alors pour le coup, lui, c'est un peu l'anti-Winston, c'est-à-dire que je pense que c'est un bon gestionnaire. Je pense que dans une situation parfaite, avec une énorme défense, avec plein de cibles, avec une bonne ligne, il peut aller loin. Je sais qu'il a une cote d'amour à cause de ce qu'il a vécu au niveau des blessures, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est vraiment de l'impression visuelle, mais je ne l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant avec les Saints, même parce qu'il gagnait, même avec des bonnes stats. C'est un très bon game manager, je pense que c'est un excellent remplaçant. Et il faut avoir un bon remplaçant maintenant en NFL, on l'a vu ces dernières années. Mais je le mets dans les mauvaises signatures, au sens où si quelqu'un décide de craquer la banque en pensant qu'il est le quarterback qui va t'emmener loin, quoi. J'ai du mal à y croire. Troisième pour toi.
Alors en troisième, du coup, t'en as parlé, mais j'avais Brandon Scherff, le garde des Redskins. C'est pas tant sur le talent qui me semble assez indéniable, assurément, que ses soucis de blessure assez récurrents.
C'est
sur ses 5 premières saisons, il y en a 3 avec beaucoup de blessures, de snaps manqués. Et pareil, je l'ai trouvé pas terrible en termes de leadership. Cette fameuse image où on voit Dwayne Haskins cette saison qui se retourne vers ses linemen offensifs en leur demandant qu'est-ce que je dois faire. Et tu vois, Scherff, il fait partie de ceux qui disent rien, le regardent pas, baissent la tête. Et je sais pas, j'ai été un peu refroidi. Alors bon, je pense que malgré tout, vu le peu de bons linemen offensifs qu'il y a en NFL, enfin le peu c'est dur, mais vu les trous qu'ont des équipes, il va être demandé. Voilà, mais c'est pas le premier vers qui j'irai.
Non, mais ça se défend. Je comprends très bien. Moi, je le tentais, je te disais, pour l'importance du truc. Mais déjà, les blessures, en effet, c'est une vraie problématique. Hunter Henry, 25 ans pour moi. J'adore le joueur. C'est vraiment pas contre lui. C'est vraiment les soucis de blessure. C'est pareil, j'ai peur que quelqu'un s'emballe. C'est intéressant sur un petit contrat. Mais attention à pas se prendre d'amour trop pour lui et à penser qu'il va rivaliser avec les Kittle et les autres tout de suite, parce que il y a quand même un gros passif, donc c'est plus de la prudence sur celui-là que j'appellerais. Quatrième,
j'irai vers c'est un peu le même la même chose, mais Austin Hooper, le tight end des Falcons, qui a un bon niveau quand il est sur le terrain, mais il a aussi quelques petits soucis de santé, et pareil, j'ai peur qu'une équipe en manque de tight end se jette un peu dessus et se fasse un peu avoir là-dessus, quoi.
Non, d'accord, j'avais hésité à le mettre aussi. Ouais. Je repars en défense. Dante Fowler, 25 ans. Ça peut être un super pari. Il pourrait être très bon dans une équipe genre Baltimore, qui gère bien ses défenseurs, même à Seattle, pourquoi pas. Mais il peut aussi faire un gros four dans une mauvaise équipe. Il sort de sa meilleure saison pile au moment où il est en fin de contrat. À Jacksonville, ça a quand même été très poussif en début de carrière, alors que c'était un très haut choix de draft. Des réserves sur Dante Fowler à ce niveau-là. Pareil, pas d'emballement en tout cas. Et le dernier.
Et le dernier, j'ai le defensive end des 49ers, Arik Armstead. Certes, qui n'a que 26 ans, qui a un ancien premier tour et qui sort d'une bonne saison. Rien à dire là-dessus. Mais je suis un peu embêté par ce joueur que moi, personnellement, je ne voyais pas tellement progresser et qu'il a vraiment explosé totalement cette année. Dernière année de contrat, l'arrivée d'un Nick Bosa sur la ligne qui a bien aidé ses partenaires à trouver un peu plus d'espace et de temps, tellement tellement le rookie cristallisait, on va dire, l'attention adverse en défense. Donc j'ai quelques doutes sur le fait qu'il puisse réitérer une aussi bonne saison ailleurs. Donc moi, j'irais très mollo sur lui.
Bon, et bien, totalement d'accord aussi d'ailleurs. Et mon dernier, c'était Melvin Gordon, donc on a déjà mentionné. Alors, je vais profiter du temps que j'avais pour mon dernier pour vous rappeler quand même quelques autres noms qui sont disponibles, parce qu'encore une fois, il y a quand même une liste avec des noms assez ronflants. Alors, je vais reprendre un petit top 100 que j'ai trouvé sur Pro Football Talk, et je vais vous dire qu'on n'a pas parlé notamment d'Anthony Harris, le safety des Vikings, hein, qui était très haut dans certaines listes. Teddy Bridgewater, on en a parlé, Derrick Henry, Matthew Judon, que j'aime bien, des Ravens, Taysom Hill des Saints, le quarterback, mais il est restreint, donc a priori il ne bougera pas de toute façon. Bud Dupree, linebacker des Steelers, Austin Hooper, on en a parlé, James Bradbury, le cornerback des Panthers, Logan Ryan, cornerback des Titans, Jimmy Ward, safety des Niners, Trey Waynes, cornerback des Vikings, Kyle Van Noy, defensive end des Patriots, Robert Quinn, defensive end des Cowboys. Derrière, je peux citer Josh Obert, le linebacker des Browns, plaqueur en série, Brian Bulaga, on en a parlé, Leonard Williams, Michael Brokers, Jaron Reed, Michael Pierce, Jamie Collins, Shaq Lawson, Kenyan Drake, Marcus Mariota, Damarius Randall, Brian Poole, Graham Glasgow, Randall Cobb, Shelby Harris, Eric Ebron, Blake Martinez, Jason Pierre-Paul. En fin de liste, il y a des vieilles gloires, hein. Il y a Jason Pierre-Paul, Ndamu Kongsu et Gerald McCoy notamment, qui sont disponibles, à Clinton Dix aussi, Emmanuel Sanders, qui sort quand même d'une saison notable avec les 49ers, Jimmy Smith, le cornerback des Ravens, enfin voilà, il y a énormément de monde, Jason Peters, le tackle très âgé des Eagles, Kendall Fuller, le cornerback des Chiefs, Mackenzie Alexander, le cornerback des Vikings, qui était un haut choix de draft, il y a énormément de monde, Vic Beasley aussi, en parlant d'anciens haut choix de draft, Ronald Darby, Von Bell, Bashaud Breeland, Malik Collins, Germain Ifedi, tiens, le premier tour aussi des Seahawks. Voilà, donc il y a énormément de joueurs notables disponibles. Il y a Nelson Agholor aussi, Ashon Robinson des Lions, Andrew Whitworth des Rams, on parlait de tackle, pardon, très âgé. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de monde disponible, vous l'aurez compris. La Free Agency sera folle, c'est pour ça qu'on a fait ce podcast avec une semaine d'avance, parce qu'on aura énormément, énormément de choses à écrire lundi prochain. On le rappelle, lundi 16 mars, le début des négociations. En général, tous les insiders américains font fuiter à ce moment-là tous les contrats, et puis ils sont officialisés à partir de deux jours plus tard, le 18 mars. Mais à ce moment-là, en général, on en a la plupart qui ont été finalisés dans les termes et qui n'ont plus qu'à être signés et qui ont déjà été annoncé encore une fois par nos confrères, et on vous relayera tout ça. Bien sûr, ça va être une des journées les plus denses de l'année, hein, pour nous, en termes de rythme. C'est costaud. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 344 du podcast Jeune Actu. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec moi pour parler de tous ces joueurs.
Eh ben, merci à toi.
Et on remercie tous ceux qui nous soutiennent aussi sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier. @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @AlainMTI pour moi-même. @RaoulVDG, @TieloRadioSat, @CamilleSarabène pour les amis qu'on salue. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine à tous. Dans une semaine, c'est la Free Agency sur le site. Et le débrief, ce sera le 24 mars. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliatelle au risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.